Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce présent ce midi. C'est un bonheur de se retrouver en cette fin de matinée. Nous allons au sommaire partir dans quelques instants du côté du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, où nous allons prendre connaissance de quelques rendez-vous que nous propose donc ce diocèse, surtout en ce temps du Triduum Pascal. Et puis Anne-Rose Jankovic sera avec nous également pour nous parler d'un rendez-vous qui a eu lieu il y a quelques temps, qui s'appelle Exode, et vous aurez donc le témoignage de cette belle manifestation. Et puis on retrouvera un catéchumène qui va être baptisé dans la nuit de Pâques, et il s'appelle Johan, il est militaire et il nous parlera témoignera de son engagement dans la foi, dans sa foi chrétienne, dans quelques instants, donc toujours au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis on parlera de toute autre chose, puisque nous parlerons des artichauts. C'est le sujet qu'a choisi de nous parler aujourd'hui Madame Valérie dans les chroniques vertes. Voilà qu'elle nous propose. Il y a Annick Valérie qui sera donc un autre compagnie. Voilà rapidement le sommaire de ce magazine. Avant de partir pour le très beau diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, eh bien moi je propose de se retrouver autour d'une chanson. Et c'est Candy Chira qui nous chantait Eva.
Dans tes yeux je vois le monde autrement. Dans tes yeux Eva, tout mon amour en grand. Dans tes yeux je vois comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. Eve, t'as fait de moi un papa. Papa. Eve.
À Souillac, 104.8.
La suite de cette émission, c'est avec l'agenda dans les diocèses. Et aujourd'hui, direction le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. On va commencer cet agenda en parlant du Triduum Pascal et des offices que présidera Monseigneur Marc Ayet.
Oui, tout à fait. Donc, Monseigneur Ayet présidera notamment l'office de la Passion à l'église Saint-Giron de Monin, donc vendredi le 3 avril à 19h. Notez également que la messe de la scène du Seigneur, la vigile pascale et le jour de Pâques seront présidés par l'évêque en la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Toutes les informations sont sur le site internet. Mais pour vous, amis béarnais, notez bien l'office de la Passion à l'église Saint-Giron le 3 avril à 19h à Monin.
Ce qui nous amène à parler du chemin de croix. Chaque vendredi de carême, un chemin de croix est proposé.
Tout à fait. Il est proposé à Bétharram, au sanctuaire de Bétharram, à 15h. Donc ce vendredi saint, chemin de croix au sanctuaire de Bétharram à 15h.
On poursuit avec les samedis bibliques. C'est un samedi par mois au monastère à Durt.
Oui, je vous annonce déjà celui qui aura lieu le 11 avril prochain. Donc sur ces chemins de samedi biblique, pardon, qui sont animés par Yann Quincampoix, qui est un bibliste et qui va vous permettre d'échanger, de participer à la Sainte Messe et effectivement de pouvoir échanger autour d'un thème biblique qui est proposé à la méditation à chaque rencontre.
Des temps de randonnée en montagne et des temps de prière, c'est ce que propose la communauté des Béatitudes de Naï.
Oui, tout à fait. Ce sera du 13 au 19 avril. Donc, c'est une session marche et prière qui alterne les temps de randonnée en montagne, des temps de prière de partage. Et le thème retenu, c'est à la suite de Moïse, quitter l'Égypte, traverser la mer Rouge et se mettre en marche vers la terre promise.
Voilà, Naï, ça se trouve entre Lourdes et Pau. On poursuit cet agenda avec une date qui est un peu plus loin. Ce sera le 1er mai prochain, mais d'ores et déjà, on peut s'inscrire, se renseigner pour un pèlerinage provincial des familles pour les vocations à Bazas.
Oui, tout à fait. Donc, grand pèlerinage provincial pour vraiment prier pour les vocations religieuses et sacerdotales. Et ce sont toutes les familles des 5 diocèses de notre province, Bordeaux, Dax, Bayonne, Agen et Périgueux, qui vont converger en pèlerinage vers la cathédrale de Bazas. J'aurai l'occasion de vous en rappeler le programme plus précisément, mais d'ores et déjà, notez la date dans vos agendas. Il y aura des bus qui partiront depuis Pau notamment. Et donc, 1er mai, notez dans vos agendas ce grand pèlerinage provincial pour les vocations. Toutes les informations et les inscriptions possibles sur le site du diocèse de Bayonne, diocèse64.org.
Voilà, ce sont donc les 5 diocèses de votre province qui vont converger en pèlerinage vers la cathédrale de Bazas, c'est en Gironde.
Tout à fait.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Cet agenda, on peut le retrouver sur le site internet du diocèse, c'est diocèse64.org. Et sur ce site internet, on peut retrouver également l'actualité avec notamment la messe chrismale qui a eu lieu mardi soir cette année. C'était en la cathédrale de Lescar.
Oui, tout à fait. Une très très belle célébration avec de nombreux prêtres présents, une cathédrale remplie de catéchumènes, de familles, de tous les fidèles du diocèse qui se sont rassemblés autour de notre évêque pour écouter le renouvellement des promesses sacerdotales de nos prêtres et puis pour vivre ce temps fort de communion. Donc retrouvez l'article et puis quelques photos sur le site du diocèse.
Voilà, merci Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron et bonne semaine sainte.
Merci Gilles, très belle semaine sainte à vous aussi.
Présence à Castelsarrasin 93.3.
Et merci également à Gilles Galbardi pour l'information religieuse en ce qui concerne le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Sachez, tiens, dans les programmes, bien sûr, pour ce Triduum Pascal, que ce soir, de 19h à 21h, vous pourrez suivre les offices de la Seine, depuis Notre-Dame de la Dorade. Et puis demain, il y aura la procession du Vendredi Saint, le chemin de croix, entre 15h et 17h. Procession de la cathédrale Saint-Étienne à la basilique Saint-Cernin. Et puis, entre 19h et 21h15, vous aurez l'office de la Passion depuis Notre-Dame de la Dorade. dorade. Voilà les programmes. Et puis on parlera bien sûr du samedi saint de 9h à 9h45. Il y aura une table ronde. La pré-paroisse étudiante, comment maintenir le lien avec les anciens étudiants pour qu'ils puissent transmettre ce qu'ils ont reçu. Et puis, sachez également qu'il y aura la vigile pascale depuis Notre-Dame de la Dorade de 21h30 à 2h30 du matin. Et puis dimanche, enfin, entre 11h et 13h, à la grande messe de Pâques depuis l'église Saint-Marc. Voilà pour le programme que vous propose donc Radio Présence pour ce Tridium Pascal. Nous allons parler d'un autre événement qui a eu lieu il y a quelque temps dans le diocèse de Tarbes-Lourdes. Il s'appelle Exode et c'est Anne-Rose Jankovic qui revient dessus avec un très beau témoignage.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Bonjour Marie Hinault.
Bonjour Anne-Rose.
Marie, vous avez 28 ans, vous êtes responsable pastorale au groupe scolaire Jeanne d'Arc à Tarbes et vous allez aujourd'hui nous parler d'une expérience forte que vous avez vécue il y a quelques semaines puisque vous avez participé du 6 au 8 mars dernier au grand rassemblement Exode. Ça s'est passé au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs de Radio Présence cet événement? De quoi s'agissait-il exactement?
Alors, les journées Exode, c'est un rassemblement qui est proposé depuis quelques années à Lourdes, organisé par la pastorale des jeunes de Toulouse, et qui était pour toute la province de Toulouse. C'est un rassemblement qui dure 3 jours, et qui est vraiment fait pour les jeunes, donc étudiants et jeunes professionnels. C'est très festif. Il y a des grandes veillées, des temps de prière, des enseignements. Le but, c'est vraiment que les jeunes qui viennent puissent être nourris dans leur foi. Ça s'appelle Exode en référence au livre de l'Exode dans la Bible. L'idée, c'est que les jeunes puissent vivre une expérience un peu comme le peuple hébreu dans le désert, de prendre conscience qu'en fait on a soif et du coup de s'abreuver à la source qui est le Christ. Voilà, ça a été créé par les Américains il y a quelques années.
Pas la première fois que ce rassemblement avait lieu et c'était pas non plus la première fois que vous y participiez, Marie.
Alors non, l'année dernière j'y étais allée un petit peu en pointillé et donc on m'en avait dit, j'avais beaucoup apprécié ce à quoi j'avais pu participer et j'avais entendu beaucoup de bien des grandes veillées et ça m'avait donné envie d'y revenir cette année, de pouvoir le vivre complètement.
Donc là c'est un rassemblement avec des milliers de jeunes qui viennent d'horizons et peut-être même de sensibilités un peu différentes.
Alors oui, tout à fait. Donc c'est un rassemblement qui est pour toute la province de Toulouse. Cette année, on avait même des jeunes de Bordeaux qui étaient là. On avait aussi quelques Alsaciens, quelques Parisiens. Ouais. Je ne saurais pas vous dire combien on était exactement. On était très nombreux, ça c'est sûr.
Ouais.
Et donc, au niveau des sensibilités, il y a vraiment un peu de tout. Et c'est vrai que je pense que c'est un enjeu pour les organisateurs, que chacun puisse y trouver son compte.
Et vous trouvez que c'est un plus, justement? Vous ne vous dites pas, face à cela, que c'est un joyeux bazar ou un sacré méli-mélo? Vous trouvez l'Église là-dedans, dans ce mélange des genres?
Ah oui, complètement. Pour moi, les moments où je sens le plus l'Église, c'est dans des moments où, on sent que au-delà de nos différences, c'est un peu cliché de dire ça, mais que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous unit. Et donc, c'est quelque chose qu'on sent dans ces rassemblements-là, où on n'est pas forcément d'accord sur 2 ou 3 détails de la liturgie, mais au fond, on va être tous ensemble en train d'adorer pendant une veillée de prière. On va réfléchir sur des questions. Là, c'est pour des jeunes qui sont au début de leur vie d'adulte. Donc,
ouais.
Toutes les conférences abordent des thèmes pour des jeunes qui sont en train de se construire.
Vous avez participé à quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 jours?
Moi j'ai participé à une conférence le premier jour sur aimer comme Dieu. Mmh. Et donc c'était l'idée c'était tout simplement de nous amener à réfléchir sur la façon dont Dieu aimait pour mettre ça en place dans nos vies, mais il y avait vraiment plein d'autres thèmes. Il y en avait un sur c'est le Christ seule vérité, en fait un peu la question d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a plusieurs vérités ou une seule. Il y a eu plein de thèmes différents, un sur comment gagner le ciel en gagnant sa vie entre guillemets. Donc autrement dit, est-ce que par notre travail on peut grandir en sainteté et servir Dieu. Sur aussi comment être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde le monde des jeunes, le monde professionnel. Enfin, l'idée, c'était vraiment de donner de la nourriture à des jeunes normaux qui vivent dans le monde, qui sont chrétiens, qui ont envie de vivre leur foi dans leur vie quotidienne.
Et vous, ça vous a nourri en tous les cas.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui est le plus fort à vivre? Ces temps d'enseignement qui vous nourrissent vraiment personnellement, presque même intimement, j'allais dire, ou ces veillées festives où des centaines, des milliers de jeunes prient, chantent, louent le Seigneur ensemble, ou est-ce que c'est vraiment l'équilibre entre les deux? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur à vous, Marie?
Alors, moi, je crois que ce qui m'a le plus nourrie, paradoxalement, pendant ces journées, c'est les temps qu'on a vécu en diocèse. Donc, avec les autres jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes, on était beaucoup plus nombreux cette année du diocèse à participer que l'année dernière. Et c'était vraiment une joie pour nous de nous retrouver. Donc, la plupart, c'est des jeunes qui font partie de l'aumônerie. On avait les aumôneries donc, de Tarbes et de Lourdes qui étaient rassemblées. Voilà, moi, je suis aussi très touchée par ce qu'on vit au niveau de notre église locale. Et au-delà de ces temps, on était très nombreux. On a eu aussi des temps ensemble, en petits groupes, et de pouvoir approfondir ces liens et être ensemble une petite partie de l'église du diocèse de Tarbes et Lourdes, c'était une grande joie. Voilà, on a pu partager une pizza, vivre des temps, et on a eu la grande joie d'avoir un moment avec Monseigneur Mika. On a pu lui poser toutes les questions qui nous passaient par la tête. Voilà, on était avec notre évêque.
Dites-nous, on est juste entre nous. Dites-nous les deux ou trois questions que vous lui avez posées. Allez, entre nous. Au moins une qui vous revient.
Je me souviens plus de tout. Il y a quelqu'un qui lui a demandé comment allait le diocèse. Quelqu'un qui lui a demandé comment allaient les finances du diocèse. Voilà, on lui a posé plein de questions.
Ce sont des questions qui préoccupent les jeunes que vous êtes.
Ah ben oui, complètement. Oui, ce que vit le diocèse nous intéresse. Je crois qu'on aime notre diocèse et qu'on a envie de savoir comment il va et puis d'y prendre notre place en fait. En ça, c'était vraiment une joie de pouvoir discuter avec Monseigneur et puis même plus simplement humainement de lui demander à quoi ressemblaient ses journées, si c'était pas trop difficile de trouver un équilibre avec toutes les occupations. Enfin voilà. Tout simplement, une discussion fraternelle.
Qu'est-ce que vous diriez à d'autres jeunes pour qu'ils aient envie de partir avec vous à ce rassemblement Exode l'année prochaine?
Je crois que je leur dirais la même chose que dans l'Évangile, viens et vois.
En tous les cas, vous allez y retourner.
Alors oui, peut-être, si j'ai la possibilité, oui, peut-être. Après, je pense que c'est vraiment un rassemblement qui est aussi fait pour les jeunes. En début de vie professionnelle, en début de vie d'adulte, et que je pense que voilà, au bout de deux ou trois fois, on a un peu fait le tour aussi des thèmes qui peuvent être abordés. Mais ce que je dirais à quelqu'un qui se pose la question d'y aller, c'est tout simplement que c'est une expérience d'église et même spirituelle vraiment forte et importante. Enfin, tous ceux que je connais qui y sont allés, c'est quelque chose qui les a nourris dans leur foi, dans leur vie humaine. Et d'autant plus qu'on a beaucoup de chance, ça se passe juste chez nous. Ouais. Donc il y en a qui viennent de loin, mais nous, on n'a pas d'excuses. On peut même dormir chez nous tous les soirs et participer à Exode. Donc pas d'excuses pour pas venir.
Merci beaucoup, Marie-Hino, pour ce retour sur cet événement Exode qui s'est tenu au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes du 6 au 8 mars dernier. Vous y avez participé. On sent que ça vous a apporté beaucoup de joie. Pour finir, puisque vous en avez un petit peu parlé de ce que vous vivez ici dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, on sent que vous êtes très attaché. Alors moi, je voudrais vous laisser peut-être, pour conclure, peut-être dire un mot à nos auditeurs qui sont peut-être un peu plus éloignés du noyau Tarbes-Lourdes, qui n'ont pas la chance d'être témoins au quotidien de ce groupe-là, de tous ces jeunes qui se rassemblent, qui se retrouvent, qui donnent une dynamique. C'est une dynamique qui n'est pas faite pour rester à table ou pour rester entre jeunes. Elle doit vraiment souffler sur tout le diocèse. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui ne vous voient pas, mais qui sentent peut-être qu'il se passe quelque chose dans le diocèse de Tarbes et Lourdes avec vous, les jeunes?
Alors, c'est un peu difficile comme question. Ce que j'ai envie de dire, c'est tout simplement que, en tout cas, personnellement, je suis très touchée par ce qu'on vit. On sent qu'il y a beaucoup de jeunes, en fait, même voilà, des recommençants, des catéchumènes qui reviennent à la foi. Ouais. Et c'est quelque chose de très beau et qui... on sent qu'il y a un vrai amour du diocèse et qu'on a envie de construire ensemble, de faire partie de ce diocèse. Et en même temps, on est bien conscient qu'on, voilà, c'est un diocèse qui nous préexiste, qu'il y a toutes ces personnes-là qui. On a envie d'apporter notre énergie, notre amour du diocèse, et en même temps de respecter tout ce qui se vit déjà, tout ce qui y est. Et on a, je pense, vraiment envie d'être membre du diocèse avec tout le monde, avec tous les autres membres. Et en tout cas, pour ma part, je suis très heureuse de tous ces petits éléments de communion qu'on peut vivre, donc notamment via le butin diocésain, via les événements diocésains, là, ce qui s'est vécu aussi l'année dernière avec ces pèlerinages diocésains, ouais, dans les sanctuaires Mario. Pour ma part, c'est vraiment une très grande joie de
qu'il n'y ait pas que des événements pour les jeunes, d'autres, oui, événements, qu'il y ait aussi des moments pour tous.
Oui, complètement. Et je pense que nous aussi, on est heureux de ça. Après, on est des jeunes, alors, parfois on a peut-être un peu la flemme de venir à ça ou à ça, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a vraiment ce désir-là de prendre notre place dans le diocèse, tout simplement, petite place aux côtés de tous les autres.
Plein de petites places, ça fait un grand cœur pour l'Église.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci Anne-Rose.
À bientôt sur Radio Présence.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes. 96.
Merci beaucoup Anne-Rose Jankovic, qu'on retrouve d'ici quelques minutes puisqu'elle sera avec Joanne, qui est un catéchumène qui va être baptisé donc à la nuit de Pâques. Il nous va bien nous donner toutes les raisons de son engagement, pourquoi il va devenir il se fait baptiser donc dans la nuit de Pâques. Il nous dira tout ça dans quelques instants, mais pour l'heure on retrouve M. Pokora, et puis ça sera également le moment de parler de l'information de notre région avec les étudiants à l'école de journalisme.
On a tous des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir. Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouveront la chance en chemin. C'est sous la pluie qu'on apprend le mieux à danser. On va plus haut quand on revient de loin. Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit, c'est la même chose, je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats, on est les mêmes, je crois. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Tout ce qu'on n'a pas, cheveux longs, une maison ou une belle brune à son bras. Celui qui a tout peut toujours plus oublier d'être heureux et jouer à la roulette russe. Bien sûr qu'on perd un peu notre innocence, le destin nous frappe sans prévenir. Il suffirait de ça mais de patience pour voir enfin les bons jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi, qu'on trouve quelqu'un pour être à nos côtés. Hey, viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens on aime qui on est, ce qu'on a. La main sur notre épaule quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a. La main sur notre
Guéonnet est le titre de cette chanson interprétée par M. Pokora. 12h passées de 25 minutes. On va faire un point sur l'actualité de notre région. Et pour cela, on retrouve Amalia Orbe. Bonjour Amalia.
Face à la hausse des prix du carburant, TLP Mobilité met en avant des solutions. De transports alternatifs dans l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Les réseaux proposent notamment 19 lignes de bus, un service de covoiturage en partenariat avec BlaBlaCar Daily et des vélos électriques en libre-service. L'objectif est d'offrir des options plus économiques et durables pour les déplacements du quotidien. Le syndicat à coordination rurale de l'Ariège, CR09, appelle à une mobilisation aujourd'hui à 21h devant plusieurs centres de finances publiques du département, notamment à Foix, Pamiers, Saint-Girons et Ferrières. Cette action vise à dénoncer la hausse du prix du carburant et de l'énergie, jugée insoutenable pour les exploitations agricoles. Dans le cadre des disparus de l'Aveyron et l'affaire Cédric Prison, le rapport d'autopsie publié ce 1er avril révèle que sa compagne et son ex-conjointe ont été tués par asphyxie au Portugal. L'ex-policier de 42 ans a reconnu le double meurtre après son interpellation le 24 mars 2026. Les corps des deux victimes avaient été retrouvés enterrés dans une zone isolée du nord du pays. Enfin, les journées européennes des métiers d'art se tiendront les 11 et 12 avril à l'abbaye de Saint-Sever de Ruston dans les Hautes-Pyrénées. Selon un communiqué publié mardi 31 mars, cet événement réunira 25 artisans d'art autour d'expositions, démonstrations et ateliers ouverts au public. L'objectif est de valoriser les savoir-faire artisanaux et de les rendre accessibles à tous dans une ambiance conviviale.
Voilà un exercice de l'école de journalisme de Toulouse avec Amalia Orbe qui nous présentait donc ce flash régional. On va retrouver de nouveau Anne-Rose Jankovic qui va s'entretenir avec Joanne et qui va être baptisée dans la nuit de Pâques. On écoute son témoignage.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Bonjour Joanne.
Bonjour Anne-Rose.
Joanne, vous avez 42 ans, vous êtes militaire et dans quelques jours, vous recevrez le baptême. Vous serez baptisée dans la nuit de Pâques, le samedi 4 avril à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Et vous allez aujourd'hui nous donner votre témoignage, nous expliquer pourquoi vous avez demandé le baptême. Peut-être que d'abord, c'est une histoire de révélation, de rencontre. Qu'est-ce qui s'est réveillé en vous pour que, eh bien, vous, tout d'un coup, vous partiez cheminer avec Jésus?
Comme vous l'avez dit, hein, c'est tout un chemin, tout un processus qui s'est mis en place. Moi, ça fait quand même quelques années où ma vie était assez instable. Mmh. Donc, j'étais en recherche hein, par divers moyens, que ce soit le développement personnel, un peu, on va dire, le sport, par les sorties, par pas mal de choses qui me. Donc, moi, tout bonnement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait une semaine où je commençais à mettre petit à petit des choses en place dans ma vie.
Oui.
Donc, essayer de trouver une routine pour aller mieux, notamment à travers le sport, à travers les sorties, la marche, des choses, on va dire, simples, basiques, bien manger, avoir une hygiène de vie.
Vous aviez
assez
ce désir d'aller bien ou d'aller mieux.
Comme je le dis, en fait, moi, je suis convalescent.
Oui.
Donc, actuellement, je suis en arrêt maladie depuis quelques années, suite. On va dire un gros burn-out.
Ouais.
Et ça a été la descente aux enfers. Et ce qui s'est passé, forcément, il y a eu beaucoup de bas. Et à chaque fois, j'essayais de vraiment me raccrocher à des choses que je maîtrisais, on va dire, donc le sport.
Vous aviez cette quête d'aller mieux quand même,
cette quête d'aller mieux.
Qui allait vous sortir de l'impasse, quoi.
Mais à chaque fois que je trouvais quelque chose qui me permettait d'aller mieux. Ça a duré jamais, quelques semaines, quelques mois, et à chaque fois après ça repartait. Je faisais deux pas, on va dire un pas en avant, deux pas en arrière. Donc après j'ai décidé à un moment donné étant donné que je suis aussi j'ai une petite fille de 14 ans. Mmh. Donc dans mon parcours vraiment elle m'a beaucoup aidé, et même quand ça allait pas, j'avais toujours ma fille vraiment au fond de moi, et je me disais même si ça va pas aujourd'hui, je me dis bon, à un moment donné, ça pourra que aller mieux, quoi. Oui. Ça peut pas, la vie, elle peut pas.
C'est-à-dire que c'est votre fille aussi qui vous donnait une bonne raison d'aller
tout
mieux.
Tout à fait,
quoi.
Oui, tout à fait. Donc, j'avais vraiment cette envie d'être présent pour elle. Donc après, on fait comme on peut, avec nos forces. Et donc.
Vous vous sentiez comment à ce moment-là? Vous vous sentiez fatigué, seul?
Très fatigué, très seul. C'était et puis très seul parce que. En fait, si vous voulez, moi, je suis à Tarbes depuis 2022. Et quelques années auparavant, pendant 14 ans, j'étais en Alsace. Mmh. Donc j'ai dû quitter mon ancien régiment pour me rapprocher de la région, pour me rapprocher de ma fille qui vivait à Pau, à l'époque. Et ce qui fait que du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvé seul, donc plus mes amis, plus ma famille. Donc là, ça a été très, très dur. Et c'est là vraiment où ça a commencé à être compliqué. Et jusqu'au jour où il y a un événement qui est arrivé dans ma vie. Alors il est assez mystérieux, même encore maintenant j'ai un peu du mal à me l'expliquer.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En gros, c'est vraiment une rencontre intérieure. Donc quelque chose qui s'est passé. Donc alors ça s'est passé à l'endroit. c'est bizarre de dire ça, mais c'était sous ma douche. Ça a été le début. Sur de la musique, de la musique. Je me sentis un peu appelé par quelque chose, on va dire, de surnaturel. Donc, je me suis laissé aller, et puis petit à petit, en fait, d'un coup, j'ai ressenti une présence et quelque chose qui m'a bouleversé. Et en fait, là, j'ai même pas pu avoir de doute. Donc, moi, de base, je suis pas croyant. Et là, j'ai su, j'ai été convaincu que c'était Dieu, et qui... En fait, il m'a fait voir toute ma vie, il m'a fait comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Il m'a fait voir aussi toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma vie. Et en fait, je me suis écroulé. Quand je vous dis écroulé, c'est j'ai pleuré. Tout ce que j'avais au fond de moi est vraiment sorti. Et ça m'a libéré d'un coup.
Ouais.
Ça m'a libéré d'un coup. En fait, c'était comme si tout ce que j'avais encaissé depuis ma naissance.
Tout est sorti.
Le bon Dieu, en fait, m'a libéré de tout ça. Et je me suis mis à prier en pleurant et à m'excuser de tout ce que j'avais fait, soit tout ce qu'il m'avait montré.
Est-ce qu'on vous avait déjà parlé de Dieu? Ou est-ce que c'était un inconnu pour vous? Vous dites que vous avez compris, finalement, assez vite, que cette présence qui vous envahissait, c'était celle de Dieu. Mais vous l'avez compris parce que vous avez reconnu quelqu'un ou quelque chose dont on vous avait déjà parlé? Ou qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous réalisez que c'est Dieu qui vous veut?
Maintenant, avec la relecture, j'ai un ami, Cyril, qui est mon parrain, d'ailleurs, que j'ai choisi, qui est quelqu'un de très pieux. Et j'étais déjà parti en mission avec lui, il m'en avait parlé plusieurs fois de Jésus et tout, mais c'était beau, mais en fait ça rentrait par une oreille, ça ressortait par l'autre, parce que c'était pas le moment, et j'étais pas sensible à écouter ses paroles, mais je trouvais ça beau quand même. Je trouvais ça beau, mais
ça vous touchait, mais ça ne s'arrêtait pas dans
mais je connaissais toujours pas Jésus, parce que qu'on s'intéresse pas à ça, en fait c'est compliqué vraiment de.
Quand vous étiez enfant, vous êtes allé au catéchisme, on vous a parlé de Jésus.
Moi, c'est ma mère qui m'a élevé, et en gros, moi, par exemple, mon père est portugais, ma mère est algérienne, donc j'ai été élevé par ma mère. Donc, on va dire du côté de ma mère, ils sont tous musulmans. Alors, ça va de musulmans très pratiquants à musulmans, ça fait le Ramadan, et puis deux, trois. Ça prie pas forcément, donc. Et en fait, à l'adolescence, je me suis détaché de ça. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, je me revendiquais comme athée. Et après, j'ai suivi mon chemin. Mais je ne connaissais pas Jésus. Et quand ça m'est arrivé, j'ai juste su que Dieu existait. Et j'avais ressenti beaucoup d'amour. Parce que, en fait, ça m'a tellement libéré. Et j'ai su qu'il me pardonnait. Et que ma vie commencerait à partir de là.
C'est-à-dire qu'à 40 ans, vous êtes dit, ma vie commence.
Ma vie... pas vraiment, pas dans ce sens-là, parce que là j'ai su que tout ce que j'avais vécu, en fait, c'était pour en arriver à ce jour-là, et que tout était utile, en fait. J'avais cette intuition sans connaître Jésus, sans rien connaître. C'est, voilà.
Alors, sans connaître Jésus, et du coup, sans connaître l'Église, sans forcément non plus connaître une communauté chrétienne, du coup, quand ça vous arrive, ça, quand sous votre douche, tout d'un coup, vous êtes happé par Dieu, une fois que vous avez pleuré tout ce que vous avez à pleurer, comment, c'est quoi le chemin? Vous allez frapper à la porte du premier presbytère? Comment vous avez fait pour être accompagné et rentrer vraiment dans ce parcours de catéchuménat qui vous conduit jusqu'au baptême là aujourd'hui?
Ben, en fait, dans un premier temps, je me suis tourné assez rapidement vers mon parrain, qui n'était pas mon parrain à l'époque.
Parce que c'était finalement la seule personne qui vous parlait de Jésus, quoi.
Oui, et en fait, c'est maintenant que je me rends compte que quand on dit on s'aime,
ouais.
Mais en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est, je vous parle de, il me parlait de sa foi en 2017, de ce qui s'était passé aussi dans sa vie,
ouais.
Avec Jésus. Et c'est quelque chose qui était rentré par une oreille et sorti par l'autre, mais finalement, je pense que ça m'a marqué parce que c'est la première personne vers qui je me suis retourné. Et en fait, petit à petit, après la Providence m'a mis les bonnes personnes au bon moment sur ma route. Parce qu'après ça, en fait, j'ai vraiment eu un lâcher-prise. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu très confiance en ce qui m'arrivait. Et ça m'a tellement libéré, en fait, que je voulais plus me poser de questions, en fait. Au début de ma conversion, j'avais vraiment un feu intérieur.
Ouais.
Où déjà, j'avais envie de convertir tout le monde. Alors que... J'ai mis du temps à comprendre que c'est pas moi qui convertis. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment ce feu intérieur et cette soif d'apprendre. Et puis, quand on m'a parlé de Jésus, en fait, quand j'allais à la messe, quand je lisais l'évangile, surtout quand on me le lisait, en fait, je ne sais pas pourquoi, ben, j'avais vraiment l'impression à chaque fois que c'était adressé pour moi. On va dire, avant, j'ai cherché à aller mieux, mais sans jamais chercher auprès de Dieu.
Ouais.
C'est bizarre quand même de...
Du coup, vous allez mieux aujourd'hui.
Bah oui, parce qu'après, bah, j'ai rencontré Jésus, en fait, on va dire, après. Et du coup, après, j'ai décidé, on va dire, de le suivre et de le mettre au centre de ma vie. Et là, ça fait un an et ma vie... Moi, j'ai jamais été aussi heureux. Et la seule chose que j'ai en plus, c'est la foi et rien de... On va dire rien de plus.
Vous en avez parlé à votre fille adolescente de tout ce que vous étiez en train de vivre et de traverser?
Oui, tout à fait, oui. De toute façon, elle chemine avec moi, parce qu'elle demande le baptême aussi.
Elle sera baptisée avec vous?
Non, elle sera baptisée l'année prochaine.
Donc un petit décalage, mais quand même...
Elle est baptisée l'année prochaine, oui.
Parlez-nous un petit peu de... Alors, vous nous parlez de votre rencontre avec Dieu, votre rencontre avec Jésus, votre découverte des évangiles. Parlez-nous de votre rencontre avec la communauté chrétienne. Parce que finalement, on parle beaucoup de la rencontre intérieure, de la préparation intérieure, mais ça m'intéresse aussi de savoir comment vous avez vécu cette rencontre avec la communauté des chrétiens déjà constituée. Est-ce que vous êtes senti accueilli? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un accueil fraternel? Est-ce que vous attendiez à autre chose?
Bah pour le coup, je pensais pas qu'on m'attendait, mais j'ai été agréablement surpris. Alors moi, pour tout vous dire, moi, par rapport à ce qui m'est arrivé, je suis allé très rapidement à la messe. Je pense, le dimanche, ça m'est arrivé le mercredi, oui, je suis allé à la messe.
Ouais.
Mais j'y allais clairement pas pour les gens, en fait, j'allais vraiment pour Dieu.
Ouais.
Parce que j'avais vraiment cette soif.
Comme un rendez-vous, quoi.
Comme un rendez-vous.
Ouais.
Et en gros, je suis allé dans une petite église au début parce que j'avais pas trop, j'osais pas trop aller à la cathédrale ou dans quelque chose de plus grand. J'étais un peu impressionné quand même. Et en fait, j'y suis allé avec un couple d'amis d'ailleurs qui m'ont accompagné. Et à la fin de la messe, moi j'attends pour ce qui m'est arrivé en fait, parce que cette chose surnaturelle qui m'était arrivée, hein, moi je savais pas trop encore. Donc je suis tombé sur le frère Joseph Cantounet. Et du coup, je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et il m'a donné sa carte. Et l'après-midi, il est venu chez moi, quoi. Et du coup, je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé. Donc, c'est la première personne, on va dire, en dehors de mon cercle proche, à qui je me suis adressé. Et je lui ai témoigné de ce qui m'était arrivé. Et du coup, à partir de là, après, il m'a accompagné. Et il m'accompagne encore aujourd'hui, d'ailleurs. On se voit une semaine sur deux pour partager l'évangile. Et du coup, je me suis retrouvé à faire le tridôme ici l'année dernière, alors que je connaissais absolument rien. Mais je me suis dit, bon,
on y va,
si je tombe dessus, bah, faut pas que je me pose de questions. Bon, c'est beaucoup ce que j'ai fait, surtout au début.
Oui, oui.
Et en fait, mais j'ai vraiment adoré. J'ai été accueilli à bras ouverts par la communauté de la paroisse, on va dire, de Tarbes et des environs de Tarbes. Les personnes ont toujours été bienveillantes avec moi. Ils ont été très étonnés, d'ailleurs, parce que ça faisait même pas un mois que... Ça m'était arrivé, donc forcément, quoi, me voir là.
Ouais. Et ça
je ne me préparais pas encore au baptême, en plus.
Ah oui, vous étiez vraiment encore aux prémices. Bah,
je ne savais pas trop ce qui m'arrivait.
Rencontre avec Dieu, quoi.
Tout à fait.
Vous vous attendiez à ça. Est-ce que ça a compté pour vous dans votre parcours, dans votre discernement, dans votre décision vraiment de demander le baptême, cet accueil de la communauté chrétienne?
Alors, ça n'a pas compté dans le sens où. Dès que j'ai, on va dire, vraiment su qui était Jésus et ce qu'il représentait, j'ai tout de suite voulu le suivre et j'ai su qu'il fallait que je me fasse baptiser. Donc je le fais vraiment par rapport à Dieu. Mais eux, en fait, dans mon quotidien, ils sont là pour moi et je me sens vraiment porté.
Oui.
Et je me sens accompagné et je me sens aimé. Et ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Qu'est-ce que vous aimeriez... vivre après le baptême? Souvent on dit que bien les catéchumènes ils sont tout feu tout flamme jusqu'au baptême et qu'après il faut faire très attention, et c'est aussi notre responsabilité à nous tous qui constituons la communauté chrétienne de faire attention à bien être attentif à ces catéchumènes qui deviennent des néophytes juste après leur baptême. Qu'est-ce que vous auriez envie de vivre jeune baptisé dans l'église? Qu'est-ce que vous avez envie de recevoir et qu'est-ce que vous avez envie de donner à notre église?
Ben,
avec la force du baptême.
En gros, moi, tout ce que j'ai reçu, en fait, au final, ça me remplit quotidiennement, en fait. Donc, j'ai pas besoin de plus après. Et après, quel conseil donner après? C'est vrai que je pense que d'une paroisse à l'autre, c'est différent.
Oui.
La chance qu'on a, bah, par exemple, à la cathédrale de Tarbes, c'est qu'il y a une communauté quand même qui est très dynamique. Il y a beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, pendant le Triduum, c'est là où, en fait, où j'ai fait le choix de me faire baptiser à la cathédrale, parce que je me suis vraiment senti chez moi, assez rapidement. Bon, après, je pense qu'il faut pas avoir peur et faut se laisser guider et voir où on est appelé à être.
Merci beaucoup, Johan, pour votre témoignage. Donc, vous avez 42 ans et je rappelle que vous recevrez le baptême pendant la veillée pascale, samedi saint à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Merci pour votre témoignage. On vous souhaite des bons préparatifs. C'est les derniers jours. Voilà, vous êtes dans quel état d'esprit? Beaucoup d'enthousiasme, je sens. On sent aussi qu'il y a beaucoup d'émotions en vous.
Bah, je savoure, parce que je sais que c'est qu'une fois dans la vie.
Ah bien, savourer, oui, donc, mais après, la grâce du baptême, elle se savoure toute la vie.
Mais quand même, quand je vois en fait tout le déroulé avec les scrutins,
oui.
Avec, on se sent vraiment, comme je disais, on se sent vraiment porté, aimé. On sent que les fidèles y prient pour nous. Donc c'est quand même un moment privilégié, je pense.
Merci beaucoup, Johan. On continue à prier pour vous. Merci.
Ben, merci à Anne-Rose.
Avec des si, je ne referais plus le monde. Avec des si, plus de pensées qui m'inondent. Avec des si, je n'aurais plus de quête. Et je vivrais de ce dont ma vie est faite. Oh, 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 oh. Avec des si, tout irait déjà bien. Je ne remettrai plus le bonheur à demain. Avec des si, tout serait facile. Avec des si, je serais une force tranquille. Mais si je ne voulais plus qu'on s'aime, comme dans les histoires. Passe. Je dirais que chacun doit trouver sa place. Avec des si, je n'oublierai pas que ce qui compte, c'est l'estime qu'on a de soi. Avec des si, je n'aurai plus peur des. je ne voudrais plus être ailleurs. Si je ne voudrais plus faire mieux, avec des si je serais tel que tu le veux, avec des si tout serait facile, avec des si je serais une force tranquille.
À Bourdeuil, 94.
Anne Lasserre, bonjour.
Bonjour Philippe.
Alors, la semaine dernière, vous me disiez qu'on avait peu parlé des cours d'eau et surtout des gaves, bien sûr, qui sont dans notre région. Je pense souvent quand même aux chansons d'Edmond Duplan qui a mis à l'honneur les gaves de notre région. Il a écrit sur l'Adour, il a écrit sur d'autres, bien sûr, d'autres cours d'eau. Et quand on évoque les Pyrénées, bien sûr, on pense surtout au sommet, au mont qui se dresse tout au long de cette chaîne, mais on oublie souvent les gaves qui les sillonnent.
Et oui, et donc aujourd'hui la chronique est consacrée à l'Adour et à ses gaves, et plus précisément aux gaves béarnais, grâce à un ouvrage publié par René Cusac en 1937.
On peut peut-être préciser aux auditeurs que le terme gave, le gave de Pau, le gave de Loron, est un terme régional désignant un cours d'eau torrentiel.
Oui, et je précise également de mon côté que René Cusac écrit cet ouvrage, l'Adour et ses gaves, pour mieux faire connaître, Philippe, un coin oublié de la France.
Et à ce propos, dans sa préface, il a cité l'abbé Jean-Félix P. de Gers, j'espère que je prononce bien son nom, né en 1809 à Ponton-sur-Adour. Il le cite car l'abbé P. de Gers fut également historien et poète gascon, et quand il est à Paris, il songe à son pays natal et bien sûr à l'Adour.
Il a notamment écrit ce poème traduit du gascon, Seine fleurie et vagabonde, Seine qui baigne de ton nom de Paris, la merveille et l'honneur du monde, combien grande ta beauté, mais tu n'es point pour moi l'Adour.
Ah, oh, c'est joli, que c'est beau. Allez Anne, on vous écoute donc.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
René Cusac est né dans les Landes en 1901. Il a été professeur au lycée de Bayonne. En tant qu'historien régionaliste, il a publié plusieurs ouvrages, dont l'un s'intitule « L'Adour et ses gaves ». Comme le titre l'indique, il s'intéresse à ce fleuve qui, des Pyrénées à l'océan, parcourt quelques 300 kilomètres, traverse des paysages bien différents, sans trop s'éloigner de ces montagnes qui lui donnent le jour. Le chapitre 3 de cet ouvrage est consacré aux gaves béarnais. À cheval sur la montagne et sur la plaine, comme les autres états pyrénéens, le Béarn est avant tout le clair pays des gaves. Leurs vallées avenantes attirèrent les hommes et sur leurs rives fleuries, des contrées heureuses chantent la joie et la douceur de la vie. Nulle part ne se révèle plus étroite l'antique union des villes, des villages et des eaux. Dans l'océan des pics pyrénéens reparus, deux grandes coupures mettent un peu d'ordre et de clarté. Cellule bien isolée à l'intérieur de la montagne, Las Peloso était jadis de libres républiques pastorales. À l'écart, dans la zone de transition et le seul pays crétacé, le Barretus est lui aussi une antique association de paroisses. Ainsi, de l'est à l'ouest, trois vallées, ayant chacune leur rivière pour berceau, forment le Béarn des montagnes. Au sud, le pic du Midi d'Osso culmine à 2885 mètres. Survivant d'une très vieille éruption, ces escarpements vertigineux tranchent sur le modelé plus doux des montagnes prochaines. Encore, les Pyrénées doivent-ils céder des pieds et des mains dans la périlleuse montée des couloirs presque verticaux, munis de crampons scellés à la montagne. Alentour de ce roi des monts surgissent des massifs compacts de plus de 2000 mètres, déchiquetés par une érosion intense que favorisent les grandes pluies d'ouest, déferlant du sud en vagues de pierre, les nappes de charriage empilèrent ici même les étages géologiques les plus divers. Comme en l'Avedan, d'innombrables lacs reflètent l'ombre des grands pics, perdus dans les derniers buissons avoisinant le silence éternel du roc. Le plus grand, celui d'Artoust, est un lac de cirque. Mais que d'autres encore, entourés du rougeoiement des poudingues ou embellissant de leurs nappes bleues toute la poésie de la haute montagne. Au-dessous d'eux, les cascades rebondissent au flanc des canyons des Rius, car rien n'est plus encaissé que ces étroites entailles des monts où coulent les eaux. Les sommets dénudés aux flaques neigeuses s'abaissent cependant vers les pelouses gazonnées, aux bleus gentianes et aux digitales pourprées. Plus bas, les forêts de sapins et de hêtres, où mûrissent framboises et myrtilles, jettent à leur tour leur ample et vert manteau sur tout ce complexe superbement boisé. C'est dans ce monde imposant des cimes que, vers 1750 mètres, se forme le Gave d'Osso. Ces deux branches de Bius et de Broussé recueillent dans une gorge sauvage les eaux de l'ouest et de l'est du pic du Midi qu'elles encadrent de leur fourche. Au confluent, dans un minuscule bassin granitique frais et humide, l'hôpital de Gabas gardait le sentier pénible montant vers les Sierras aragonaises. De nos jours, les modestes saloirs du petit village reçoivent par milliers les fromages réputés de la montagne. Dès lors, jusqu'à la Reims, 500 mètres environ, dans la verdure des grandes forêts et les gerbes d'eau des chutes, coupées de verrous, courant dans un mince sillon où un pan de ciel à peine à se montrer, le Gave se précipite d'une pente formidable dans l'encaissement des calcaires et des sapins. Tandis que planent les aigles, maîtres des cieux, les coqs de bruyère se perchent aux branches des arbres. Plus haut encore, le chasseur à l'affût attend la horde d'isards que pourchassent les rabatteurs. Légère et gracieuse, humant le vent, la fine bête bondit au-dessus des abîmes. Mais arrive le brouillard de l'automne ou du printemps, le troupeau inquiet et immobile se tapit sous la roche. Lui aussi vit dans ses solitudes. Maître Martin, qui dansait jadis jusqu'en chalosse au son des tambourins des batteleurs. Et ce n'est pas impunément que l'ours, sculpté sur tant de chapiteaux d'église, figure avec la vache dans les armes de la vallée. À droite, sous un fouillis de rocs et d'arbustes, le Soussouéou furieux descend du lac d'Artoust dans la beauté des buis. La station thermale des eaux chaudes s'allonge avec peine dans l'espace resserré, séjour préféré de la cour de Navarre au XVIe siècle. En aval, survient le formidable verrou glaciaire du Hourat, entaillé depuis d'Etigny par la plus impressionnante des routes. Sciant littéralement la muraille de pierre, le Gave semble disparaître dans le trou sans fond du défilé sinistre. Toujours à droite, à Cour-le-Valentin, Sur ses bords, les aubonnes accrochent leur promenade au flanc du Gourzy, dont la hêtrée splendide précède les pelouses rougies des rhododendrons en fleurs. Devenue, grâce à la féerie de leur champ de neige, un centre réputé de sports d'hiver, les aubonnes sont l'un des splendides fleurons de la couronne des villes d'eau qui font l'orgueil des Pyrénées. Le livre de René Cusac, « L'Adour et ses gaves », est le deuxième ouvrage à paraître dans la collection « Les belles rivières de France ». Le livre contient de nombreuses illustrations, plus précisément 167 héliogravures. Le livre a été publié à Aurillac par les éditions USHA en 1937.
René Cusac nous rappelle dans ce texte que les Pyrénées sont célèbres non seulement par leur sommet, mais aussi par leur gave. Et il ajoute que nous sommes dans les années 1930, certains lieux comme les aubonnes sont devenus réputés grâce au sport d'hiver.
En effet, Philippe, quelques années auparavant, en février 1908, a lieu aux aubonnes le premier concours international de ski. Alors, il y a bien sûr des Français, mais aussi des Norvégiens, des Italiens, des Suisses. On organise des concours de saut à ski, des courses de luge, de traîneau et de bobsleigh.
On organise tout cela avec les moyens du bord. ça devait être rigolo.
Oui.
Les aubonnes ne possèdent aucun des équipements actuels. Les courses de luge, de traîneau ont lieu le long de la route et même dans la rue qui traverse les aubonnes. Les bobs empruntent aussi les rues verglacées, bien sûr, faute de pistes et d'infrastructures qu'on peut connaître aujourd'hui.
Et malgré tout, ce premier concours connaît un tel succès que l'année suivante, en février 1909, a lieu le deuxième concours international des Pyrénées. Les skieurs palois invitent de nouveau les skieurs de tous les pays à venir se mesurer à eux sur les pentes de la vallée d'Ossau.
Pour l'occasion, on a construit des traîneaux qui sont tirés par des mulets et des chevaux afin de transporter les nombreux spectateurs. Parmi eux, il y a un spectateur particulier. Le roi d'Espagne, Alphonse XIII, lui aussi montera dans un de ses traîneaux pour aller admirer et présider le clou du spectacle, le concours de saut remporté par un Norvégien.
Oui, faut-il l'avouer, Philippe, les Français ne brillent pas par leurs performances, mais on en est au début du ski dans les Pyrénées. Hein.
Voilà, et c'est vrai que vous nous aviez raconté dans cette chronique la perception des Pyrénées à travers le temps, et bien que les Pyrénées, il y a quelques années, on n'y montait pas, il faisait peur, on trouvait ça des fois même effrayant et pas beau.
Oui.
Et puis petit à petit, on les a gravis, aujourd'hui, on les emprunte l'hiver abondamment.
Voilà.
Et l'été aussi, bien sûr, pour de belles balades.
Et si ma mémoire ne me trompe pas, je crois que la première paire de skis, elle arrive dans les Pyrénées en novembre 1903.
1903, oui. C'est pas si vieux que ça. Hein, voilà.
Ils n'avaient pas eu trop le temps de s'entraîner.
Non. Exactement. Alors, la semaine prochaine, nous irons dans les environs de Lourdes grâce à un ouvrage écrit par Lucien Latapie et qui fut d'ailleurs maire de Lourdes de 1929 à 1932. À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Radio Présence dans la Haute Ariège 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Messe chrismale ce matin à la Basilique Saint-Pierre en ce jeudi saint. Le pape a invité les fidèles et en particulier